Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. Pour lutter contre le coronavirus, un quart de la population italienne est en quarantaine. Dans un instant, nous serons en ligne avec Bruce de Galzin à Rome. En France, à cause de l'épidémie, l'annulation ou le report des voyages scolaires pénalise de nombreuses entreprises de transport. Reportage dans la Manche, dans le Haut-Rhin, département très touché par la maladie. Les activités culturelles très perturbées en ce dimanche. Julie Pietri est sur place. Au sommaire encore, la journée internationale des droits des femmes, des manifestations dans toute la France contre les violences, le harcèlement, les inégalités. Les manifestantes se rassemblent en ce moment à Paris. Quelques actions spectaculaires dans la capitale ce matin. Le droit de suite, comme chaque dimanche il y a un an, les appels d'offres pour le chantier du tunnel de la liaison ferroviaire Lyon-Turin. Le point sur le chantier en 2020, où en sont les réticences politiques du mouvement 5 étoiles en Italie face à ce projet. Nous serons en ligne avec Hubert Duménil, le président du maître d'ouvrage, président du groupe TELT Tunnel Euralpin Lyon-Turin. Et puis les sports, Écosse-France, le rugby, le tournoi des Six Nations. Cet après-midi à Édimbourg, le 15 de France va défendre son statut de favori pour le Grand Chelem.
France Inter.
Conséquence de l'épidémie de coronavirus, mesure sans précédent en Europe, en Italie, un quart de la population est placée en quarantaine. Cela concerne le nord du pays, 15 millions de personnes. Les entrées et sorties d'une zone allant de Milan à Venise sont désormais étroitement limitées. Par ailleurs, sur tout le territoire italien, les cinémas, théâtres, musées et salles de spectacle sont fermés. Avec près de 6000 cas et 233 morts, l'Italie est le troisième pays le plus touché par le coronavirus dans le monde. Toutes ces mesures, très contraignantes, ont été annoncées hier soir à la télévision par le président du Conseil italien, Giuseppe Conte.
Ci rendiamo conto che tutte queste misure creeranno disagio.
Nous nous rendons compte que ces mesures impliquent des désagréments et des sacrifices, à la fois des petits et des grands. Mais c'est le moment d'être responsable. Nous devons comprendre que tout le monde doit respecter ces mesures. Nous assumons toute la responsabilité politique de ces décisions. Soyez sereins, on va y arriver, on va rester ensemble. Et nous espérons que cette situation d'urgence prendra fin bientôt.
Giuseppe Conte, le président du Conseil italien. On retrouve en direct à Rome notre correspondant permanent, Bruce de Galzin. Bonjour Bruce.
Bonjour.
Alors dans le nord du pays, comment vont s'appliquer ces mesures de mise en quarantaine pour 15 millions d'habitants? À quoi va ressembler la vie des habitants dans cette immense zone de Milan, la capitale économique du pays, à Venise évidemment, au lieu du tourisme.
Ben en effet, Pierre, il y a deux types de mesures pour deux zones décidément bien définies désormais. Ces grandes villes que sont Milan, Venise, Parme, Modène, Rimini, eh bien là, la vie quotidienne va totalement changer. Il est interdit d'entrer et de sortir de cette nouvelle zone rouge, sauf pour travailler, si c'est impératif, ou pour des problèmes de santé, mais cela doit être autorisé par le préfet. Écoles et universités sont fermées jusqu'au 3 avril, et même pour sortir ou dîner dehors, bars et restaurants sont ouverts, oui, mais jusqu'à 18h uniquement. Les supermarchés, eux, seront ouverts, mais pas le week-end. Et puis, pour tout le pays, donc zone rouge inclus, il faut respecter une distance d'au moins 1 mètre avec n'importe qui. Et donc, bien musées, théâtres, cinémas seront fermés. Il n'y aura plus de mariage ni d'enterrement. Il est recommandé aux employeurs de mettre leurs salariés en vacances dans la mesure du possible. Et puis bien sûr, les déplacements doivent être limités. Tout cela sous peine d'amende, 206 € et même de prison, 3 mois maximum. Sauf que les contrôles ne seront pas suffisants. Et donc le président du Conseil l'a répété, on vient de l'entendre, c'est à chacun d'avoir le sens des responsabilités.
Bruce, toutes ces décisions drastiques, très contraignantes en Italie, suscitent déjà beaucoup de critiques.
Ben oui, plusieurs présidents des régions concernées dans la zone rouge estiment que ces mesures, en fait, elles manquent surtout de clarté et de cohérence. Elles sont aussi jugées disproportionnées par certains qui disent ne pas savoir comment les appliquer. Qui va contrôler, en effet? Ce matin, la question est là aussi. Autant de restrictions à respecter. Et puis pour quel résultat? Hier par exemple à Milan, il faisait très beau, les jardins étaient envahis d'enfants, de parents. Eh bien cela, ce n'est vraiment pas conseillé. Il faudra donc changer ses habitudes, son quotidien. Mais avant d'annoncer des mesures aussi restrictives, ce qui a pesé lourdement dans la balance, c'est en fait la situation des soins intensifs en Lombardie. Les hôpitaux sont saturés au point que tous les malades en soins intensifs autres que les malades du coronavirus vont être transférés hors de la région Lombardie pour que les hôpitaux ne traitent plus que les malades du coronavirus.
Bruce de Galzin en direct à Rome, merci. Le bilan de l'épidémie en France, près de 1000 cas de contamination, 16 décès. Réunion ce soir à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron d'un conseil de défense sur cette crise du coronavirus. Avec la propagation de l'épidémie, l'éducation nationale recommande le report ou l'annulation des voyages scolaires. De nombreux élèves sont déçus, évidemment. Ils pensaient s'évader des salles de cours. La situation est problématique pour les agences de voyage et autocaristes. Exemple dans le département de la Manche. Reportage de Benoît Martin de France Bleu Cotentin.
Dans la Manche, plusieurs autocaristes sont directement impactés par la directive du ministère de l'Éducation nationale.
Depuis lundi, il y a eu des annulations, notamment les échanges scolaires avec l'Allemagne. On avait des séjours prévus avec des collégiens.
Stéphanie Bralet est la responsable de Colas Voyage dans la Manche. Et comme la plupart de ses collègues, elle gère en ce moment les dossiers d'annulation. C'est du temps perdu et surtout du chiffre d'affaires en moins pour sa société.
Je crains que ça ne puisse pas être reporté à des dates ultérieures puisqu'on est déjà en mars et que l'année scolaire va se terminer en juin. Donc ce sera normalement impossible de reporter ces voyages. Donc ce sera de la perte sèche.
Dans certaines entreprises, les voyages scolaires représentent jusqu'à 50% de l'activité. Bertrand Bossu est voyagiste à Valognes. Il organise quelques séjours scolaires et tire la sonnette d'alarme.
Qu'on prenne des précautions avec nos enfants, oui. Mais on a déjà eu le Brexit qui nous a pas fait de bien sur les voyages en Angleterre. Maintenant, on a le coronavirus. Qu'on demande l'avis des professionnels aussi avant de prendre des décisions irrémédiables qui vont provoquer des gros dégâts économiques.
D'autant qu'au-delà des annulations scolaires, autocaristes et voyagistes reçoivent de plus en plus de demandes d'annulation de groupes pour des séjours touristiques, y compris dans des zones qui ne représentent pas de risque particulier. Les professionnels préviennent, ce type d'annulation ne sera pas gratuit.
Voilà, enquête de Benoît Martin de France Bleu Cotentin. Thierry Breton, le commissaire européen pour le marché intérieur, était l'invité de questions politiques sur France Inter avec Ali Badou il y a quelques minutes. Il promet une coordination européenne pour la production de matériel de protection pour les professionnels de santé. On l'écoute.
J'ai convoqué pour cette semaine, mardi, l'ensemble des industriels européens qui produisent ces équipements de façon à ce que nous puissions faire un point très précis de l'état des stocks de chacune des entités qui pourront répondre à l'ensemble des besoins de l'Union, partout dans l'Union, une Europe solidaire, je le redis, également d'étudier la capacité que certains ont d'augmenter par 2, voire par 3, leur production
en fonction
des besoins.
Pour
l'instant, ça concerne uniquement les équipements essentiellement pour protéger les personnels de santé. Je pense aux masques, je pense aux gants, je pense aux blouses, je pense à ce qui les protège, c'est la priorité. Et puis, on va faire une deuxième réunion, on n'en est pas encore là, car on n'a pas du tout de, on n'est pas en manque, mais cette fois-ci pour les médicaments. Et ça, je le ferai un peu plus tard dans la semaine, de façon à ce qu'on ait une bonne appréciation, y compris des chaînes de production.
Thierry Breton sur France Inter dans Questions politiques avec Ali Badou. Près de 900 entreprises ont demandé à bénéficier des aides au chômage partiel. Conséquence, bien sûr, de cette épidémie du coronavirus, c'est ce que vient de déclarer Muriel Pénicaud, la ministre du Travail sur BFM TV. Cela concerne 15 000 salariés. Le coût de la mesure, 52 millions d'euros. Le Haut-Rhin est un des départements les plus touchés par le coronavirus, avec 81 patients contaminés. Les établissements scolaires seront fermés pendant 2 semaines. Les rassemblements culturels de plus de 50 personnes sont annulés. Les visites sont désormais interdites dans les hôpitaux et EHPAD de la ville de Mulhouse. Julie Pietri est en direct avec nous à Mulhouse. Bonjour Julie.
Bonjour.
Conséquence de toutes ces restrictions, ces mesures, un exemple très simple, il est difficile d'organiser en ce dimanche une sortie culturelle à Mulhouse.
Information Covid-19, ce lieu est fermé au public. Nous vous remercions de votre compréhension. Ce même message est affiché, accroché sur les grilles, les portes des musées de la ville. Florian est arrivé du sud de la France avec son fils pour passer le week-end et pour un lieu en particulier.
Je suis venu pour faire une surprise à mon fils, pour l'amener au musée du train. C'était prévu depuis longue date, donc on n'a pas annulé.
La Cité du Train, plus grand musée ferroviaire d'Europe, sa centaine de locomotives, voitures et wagons resteront lointains pour le petit garçon. Le musée est donc fermé aujourd'hui sur décision de la mairie, comme celui des Beaux-Arts ou comme la Cité de l'Automobile. Florian explique la situation à son fils, Robin, déjà bien informé sur ce qui se passe dans la ville.
C'est le coronavirus.
Le virus, eh ben, il produit des grands
danger, du coup on doit fermer tout pour éviter qu'on donne le virus à tout le monde.
La mairie évoque plus officiellement des mesures temporaires pour ralentir la propagation du virus. Ce matin, les habitants de Mulhouse pouvaient déambuler dans les parcs, aux jardins zoologiques ou aller au cinéma dans certaines salles qui proposent des séances avec moins de 50 spectateurs pour maintenir la programmation tout en respectant les recommandations de la préfecture, c'est-à-dire l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes dans tout le département.
Julie Pietri en direct à Mulhouse avec les moyens techniques de François Rivalan. C'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. L'occasion de manifestations à Paris et dans une dizaine de villes de France, les manifestantes ont l'intention de rappeler leurs revendications, l'égalité salariale avec les hommes, le refus de la répartition inéquitable du travail domestique, le refus de la réforme des retraites et ses effets qui seraient négatifs pour les femmes, bien sûr, le fléau des violences sexuelles, les féminicides, le harcèlement physique ou verbal. À Paris, la manifestation partira à 14h de la place d'Italie pour rejoindre la place de la République. Avant le départ du défilé, un pique-nique est organisé, place d'Italie. Reportage Antoine Perrin.
La marche n'a pas encore démarré ici. L'heure est pour l'instant à la répétition des chants.
Nous disons toute vive Badès. On est là.
Le symbole dans la manifestation, c'est Rosie la rifteuse. C'est pourquoi de nombreuses femmes ont revêtu le bleu de travail et le foulard rouge. Yuli Yamamoto est militante du collectif Attaque.
Pourquoi on a cette image-là, c'est-à-dire un bleu de travail, un fichu rouge, ça c'est Rosie la rifteuse, c'est une icône féministe. Et pourquoi on a les gants jaunes, bah, ça c'est les gants de vaisselle pour symboliser la double journée de travail des femmes. Et en fait, l'idée de cette image des femmes en bleu de travail avec les gants de vaisselle, c'est de pouvoir résumer en une image que c'est une revendication féministe liée au travail. Il fallait qu'on puisse porter l'image de la femme, du travail, de la double journée de travail dans le cadre de la réforme des retraites. Et c'était la meilleure image qu'on a trouvée et apparemment ça marche très bien. On est obligé en fait de développer divers moyens visuels pour montrer la colère des femmes.
Plus loin, distribuant des pancartes, Suzy Rothman affiche fièrement un badge sur lequel est écrit « On arrête toutes ».
On arrête toutes, c'est-à-dire qu'on veut montrer que si les femmes s'arrêtent, tout s'arrête. Donc montrer notre rôle fondamental dans la société, dans le travail rémunéré bien sûr, avec tout ce qui va avec, les revendications par rapport au temps partiel imposé, par rapport aux métiers féminisés qui sont moins bien payés, etc., etc.
La marche qui doit partir d'ici moins d'une heure prendra fin place de la Bastille à Paris.
Voilà, reportage à Paris, Antoine Perrin. Le droit de suite, comme chaque dimanche dans le journal de 13h sur France Inter, la liaison ferroviaire Lyon-Turin, chantier pharaonique, 270 km, un tunnel de 57 km de long, le coût du projet, 18 milliards d'euros. Il y a un an, la société TELT, chargée des travaux, lançait des appels d'offres concernant les travaux en France, notamment le tunnel. Le coût du tunnel est estimé à 8 milliards et demi d'euros. En avril 2019, voici ce que disait la ministre des Transports Elisabeth Borne à propos de cette liaison Lyon-Turin, liaison ferroviaire. C'était sur France 3.
Moi, je dis que c'est un projet très, très important à la fois pour notre pays au-delà pour l'Europe. Et que la France est engagée, qu'on a signé un traité avec l'Italie, que nous nous souhaitons respecter, pour une raison très simple, c'est que vous savez, aujourd'hui, le transport de marchandises entre la France et l'Italie, le ferroviaire, c'est simplement 8%. C'est 70% entre l'Italie
et la Suisse. Et vous souhaiteriez que le gouvernement italien soit plus cohérent sur cette question ?
Il n'y a pas de doute que je souhaiterais avoir en face de moi des gens qui mettent en œuvre le traité international qu'on a signé avec eux.
Elisabeth Borne, la ministre des Transports, il y a à peu près un an. En ligne avec nous, au téléphone, Hubert Duménil, le président du maître d'ouvrage du groupe franco-italien TELT, Tunnel Euralpin Lyon-Turin. Bonjour monsieur Duménil.
Bonjour.
Vous avez entendu Elisabeth Borne. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème avec les autorités italiennes concernant ce chantier Lyon-Turin ? On sait que le mouvement 5 étoiles, qui fait partie du gouvernement italien avec le Parti démocrate, est opposé hein, à ce projet.
Oui, mais il y a eu un arbitrage du président du Conseil, M. Conte, qui a décidé, après une période effectivement de confrontation, qu'il fallait poursuivre cet ouvrage parce qu'il était dans l'intérêt de l'Italie et de l'Europe. Et donc le sommet franco-italien récent du 27 février a montré que les deux présidents, président Conte et président Macron, pouvaient réaffirmer de manière tout à fait cohérente leur volonté commune, leur décision commune de poursuivre ce projet et de le mener à son terme. Donc on peut dire que la discussion, la relation franco-italienne est maintenant tout à fait cohérente et que nous pouvons poursuivre notre mission, notre travail dans un environnement qui est tout à fait clair.
Quelles sont les dates de fin de ce chantier absolument pharaonique ?
Alors vous savez, il faut être prudent sur ce sujet. L'objectif qui avait été fixé lorsque nous avons démarré le projet, il y a près de 5 ans, c'était 2030. C'était l'objectif qui avait été fixé par les deux États, France, Italie et l'Europe, qui est le principal financeur. Nous aurons l'occasion de réactualiser ou de réviser le planning dans les prochains mois avec nos trois entités qui financent, France, Italie et Europe, en fonction notamment du calendrier de ces derniers mois et puis du fait qu'on a pris quelques retards, comme vous le savez, depuis 2 ans, à cause de la situation italienne que vous évoquiez il y a un instant.
Justement, les mesures de quarantaine dans le nord de l'Italie décrétées hier soir par le gouvernement, est-ce que ces mesures vont ralentir votre chantier ?
Alors, nous sommes évidemment impactés puisqu'un certain nombre de collègues sont installés à Turin et donc ils appliquent, comme nous le faisons de notre côté, toutes les mesures et recommandations qui conduisent à annuler un certain nombre de réunions, de déplacements et de nous adapter avec des conditions de travail nouvelles, si je peux dire, et notamment en utilisant largement le travail à distance, le télétravail et tous ces moyens de communication. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact sur les chantiers qui sont répartis. Il y a 4 chantiers actuellement côté Italie et côté France, 3 en France, 1 en Italie. Et pour l'instant, ces chantiers qui ont lieu en zone libre, si je peux dire, qui ne sont pas dans des bâtiments, n'ont pas donné lieu à des restrictions. Mais vous savez, sur ce sujet, nous faisons comme tout le monde, hein, nous écoutons attentivement les décisions et les recommandations et nous les appliquons scrupuleusement.
Est-ce que ce projet Lyon-Turin, cette liaison ferroviaire, sera-t-elle rentable ?
Alors vous savez, le mot rentabilité, je pense qu'il faut le définir hein, avant de l'utiliser. Est-ce qu'il s'agit de rentabilité de capital, de l'argent, des actionnaires ? Est-ce qu'il s'agit d'une valeur économique pour les économies des pays ? Est-ce qu'il s'agit d'un intérêt de relation, de proximité des personnes, des peuples ? Nous ne prenons pas le problème, nous, tout à fait sous cet angle-là. Nous disons que ce projet, il a été conçu et lancé pour 3 grandes raisons. Il s'inscrit dans le réseau ferroviaire européen, donc c'est une grande infrastructure à caractère européen et largement financée par l'Europe. Le deuxième atout, c'est qu'il permet de relancer le transport ferroviaire, notamment de marchandises, et donc de travailler pour l'environnement. Et le troisième atout, c'est qu'il facilite les échanges de marchandises et de personnes entre les différents pays de l'Europe, notamment la France et l'Italie. Et de ce point de vue, c'est un outil
Merci.
De développement.
Merci Hubert Duménil, président du maître d'ouvrage du groupe franco-italien TELT, tunnel euralpin Lyon-Turin. Et donc, cette liaison ferroviaire, d'après ce que vous nous dites, Lyon-Turin sera prête, sera opérationnelle en 2030. Après des années de dénégation, le tueur en série Michel Fourniret a reconnu, après plusieurs jours d'interrogatoire cette semaine à Paris, l'enlèvement et le meurtre d'Estelle Mouzin, cette fillette de 9 ans disparue en 2003 en Seine-et-Marne. Michel Fourniret est un personnage dangereux, bien sûr, complexe, manipulateur. Face à ses aveux, l'avocat du père d'Estelle Mouzin, maître Didier Seban, souhaite que l'enquête désormais avance rapidement. Il rappelle qu'on n'a jamais retrouvé le corps de la fillette.
Ce que nous savons pour le moment, c'est qu'il a avoué à 2 reprises. Il n'y a pas de raison de considérer que ce qu'il dit est faux, puisqu'il n'a jamais revendiqué un meurtre qu'il n'avait pas commis. Donc prenons ces aveux comme ils sont, mais travaillons, parce qu'on doit savoir ce qu'est devenu Estelle. Nous avons déjà demandé au juge une série de fouilles dans des endroits bien connus de Michel Fourniret. Ces fouilles doivent avoir lieu. Nous espérons qu'elles auront lieu dans les semaines qui viennent pour espérer retrouver le corps d'Estelle. Et puis, je le dis encore, pour d'autres victimes de Michel Fourniret, les investigations sur ce tueur en série ont été trop longtemps arrêtées en France. La justice n'a pas pris les moyens. Il y a beaucoup d'autres familles de victimes qui attendent de savoir ce qui s'est passé. Et le travail qui est enfin mené devrait nous permettre de savoir quel est véritablement le parcours criminel de Michel Fourniret. Il manque encore beaucoup de pièces au puzzle.
Maître Didier Seban sur France Info avec Matteo Maestracci. Les sports, le rugby, le tournoi des Six Nations. Cet après-midi, 16h à Édimbourg, le 15 de France affronte l'Écosse. Rendez-vous important. Les Français sont les seuls en mesure de réaliser le Grand Chelem. Ambiance dans les rues d'Édimbourg avec notre envoyé spécial Fanny Lechevestrier.
Avec un signe qui ne trompe pas sur le nouvel engouement autour du 15 de France de Fabien Galthié, ce sont tous ses supporters qui se promènent depuis ce matin dans les rues de la vieille ville, arborant fièrement leurs couleurs, grimées en bleu, blanc, rouge, écharpe autour du cou, casque d'obélix ou perruque de coq sur la tête pour la plupart, ou quand l'expression « fier comme des coqs » n'a rarement aussi bien porté son nom.
On m'aurait dit ça l'année dernière, il y a deux ans, il y a trois ans, bah, c'était pas terrible. Puis là, être en Écosse pour peut-être gagner le tournoi et un grand chelem à la clé.
Ça, il commence à nous refaire palpiter, donc voilà, qu'on gagne ou qu'on perde, on sait que maintenant on a une équipe.
Et là, en espérant qu'on gagne, et
ça sera du bonus.
Cocorico.
À propos de Cocorico, quelques supporters font même actuellement le tour de la ville en vieille voiture anglaise, drapeau bleu, blanc, rouge dans le vent et marseillaise à fond les ballons. Persuadés que les Bleus peuvent s'imposer cet après-midi pour la première fois à Murrayfield depuis 2014 et filer vers un grand chelem aussi inespéré que rêvé depuis 10 ans. À Édimbourg, Fanny Lechevestrier, France Inter.
Et rendez-vous tout à l'heure à 16h, c'est la fin de ce journal.